Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes, Torah Box Radio depuis Jérusalem, bienvenue à notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors d'abord, pour celles qui ne nous connaissent pas, je suis rabbanite Léa Benaïm et j'ai la chance chaque semaine de vous présenter un nouveau sujet du judaïsme pour nous les femmes, pour essayer un petit peu de mieux comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, pour s'enrichir, pour analyser certains sujets qu'on ne comprend pas forcément et pour en sortir renforcée Be'ezrat Hachem. Alors, en plein dans le mois d'Eloul, on est en train de vivre un mois extraordinaire, une période magnifique et magique. On a commencé déjà dans les précédentes émissions, la semaine dernière et la semaine d'avant, à toucher un petit peu de la grandeur de ce mois, d'essayer de réaliser qu'est-ce qu'Hachem nous propose. C'est quoi la tshuva, comment est-ce qu'on l'aborde, et aujourd'hui on va continuer sur ce sujet pour exploiter ces journées magnifiques, merveilleuses, qu'on appelle Yamim Noraim. Le mois d'Eloul on l'appelle Chodesh Arachamim, le mois de la miséricorde, et en fait on va essayer de comprendre combien est-ce que la tshuva elle est à notre portée. Comment est-ce qu'on peut faire tshuva ? On va essayer de donner des conseils. On a beaucoup de travail sur la planche et je vous propose de faire une petite pause d'abord pour une pause publicité, pour prendre des forces et revenir en force. Je vous rappelle que si vous avez quelque chose à nous écrire ou à nous dire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. Et bien, Be'ezrat Hashem, on tâchera de vous répondre. Donc, à tout de suite, je vous attends.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte des vraies Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan ? C'est l'ishma, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes et bienvenue dans notre émission Judaïsme au féminin. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, j'ai annoncé avant la pause de publicité que je voulais essayer de parler, d'aborder du thème de la tshuva aujourd'hui. Ce thème donc qui est d'actualité puisque Elul c'est le mois de la tshuva. Et on va essayer donc de comprendre et de se plonger donc dans l'essence même de ce mois, dans l'essence même de cette mitzvah, puisque la tshuva c'est une mitzvah. Une mitzvah qui nous paraît parfois énorme, géante, mais qui en vérité est à notre portée. Et avant, donc, on va commencer à analyser, on va donner des conseils. Je voulais d'abord, dans un premier temps, qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous empêche de faire tshuva. Ok ? Il faut savoir que, on l'a dit dans les précédentes émissions, la base de la tshuva, c'est la emuna. Ça veut dire quoi la emuna ? C'est la confiance. En quoi ? La confiance en quoi ? La emuna, c'est la confiance en quoi ? Alors, il y a confiance dans plusieurs domaines. Il y a d'abord et avant tout, bien sûr, la confiance en Dieu, la confiance en Hachem, que ce qu'il nous demande, c'est à notre portée, c'est faisable. On nous dit que Hachem, il ne vient pas nous demander des choses qui sont impossibles, il ne nous cherche pas à nous coincer et nous demander des choses qui, de toutes les manières, on ne sera pas capable de faire. Et là, c'est le début de comprendre c'est quoi la tshuva. C'est l'introduction bichlal avant d'envisager de faire tshuva. On doit renforcer en nous notre confiance en Hachem. D'ailleurs, on l'avait expliqué, c'était une des raisons pour lesquelles, pendant cette période, on nous demande de lire le Tehillim Kavzaim, le psaume 27, dans lequel David Ameller parle beaucoup de ce sujet de la emouna, parce qu'on ne peut pas faire tshuva si on n'y croit pas. Si on ne croit pas que ce qu'Hachem nous demande, c'est quelque chose de bon pour nous, c'est quelque chose qu'on est capable de réaliser. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il nous apprend que la Géoula, elle dépend de la conviction, de notre conviction qu'Hachem nous aime. Et que ce qu'Hachem y fait pour nous et ce qu'Hachem nous propose, donc la Torah, les mitzvot, ce qu'il met sur notre chemin, c'est bon pour nous. C'est la clé de la Géoula, c'est la clé de la rédemption, de savoir que tout ce qu'Hachem il nous donne, et tout ce qu'Hachem il nous demande, et tout ce qu'Hachem il met sur notre chemin, c'est bon pour nous. D'ailleurs, c'était la faiblesse de Adam et Chava, malheureusement, si on peut se permettre de parler comme ça. Comment est-ce que le serpent a réussi à convaincre Chava de manger du fruit interdit? Après, Chava, elle a convaincu son mari. Il a fait croire à Chava que ce qu'il lui proposait, lui le serpent, en mangeant de ce fruit interdit, c'était mieux que ce qu'Hachem lui proposait. Il lui a fait en vérité douter de l'amour qu'Hachem nous porte, lui porte, leur portait. C'était ça la première faille qui a entraîné que Chava elle s'est dit « Attends, là le serpent il est en train de me dire que si je vais manger de ce fruit interdit, alors ça va être le top. Je vais savoir plein de choses, je vais être comme Dieu, je vais être encore mieux que Dieu. Et peut-être que réellement Dieu ne cherche pas mon intérêt lorsqu'il m'a interdit d'en manger. » Et en vérité, c'est la faille qui nous empêche parfois de faire tshuva. On se pose la question, est-ce que réellement, dans ces 613 mitzvot, Hachem y cherche mon intérêt ? Est-ce que réellement, il y a évidemment tout le sujet de la emouna en général dans la vie par rapport aux épreuves qu'on rencontre, mais là, je veux parler plus de la emouna dans la force de la Torah et dans l'amour d'Hachem. Et c'est le B.A.B.A. de la tshuva. Pour pouvoir revenir, parce qu'on le sait bien, la tshuva, c'est revenir. On va en reparler. Revenir vers qui, vers quoi. Mais pour pouvoir revenir, il faut d'abord savoir vers qui je reviens et pour qui je reviens. Et est-ce que j'ai envie de revenir? Est-ce que ça vaut le coup pour moi de revenir? En fait, c'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de revenir? Est-ce que le fait de revenir, ça va être bon pour moi? Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Donc, si on veut envisager pendant ce mois d'Eloul de faire tshuva, il faut d'abord qu'on se renforce sur la conviction de l'amour qu'Hachem nous porte, qu'Hachem il est bon, et que la Torah, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem il aurait pu nous faire. Vous savez, j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle a dû une fois donner un cours à des jeunes filles qui étaient religieuses et qui avaient tout abandonné. Et elle avait beaucoup de mal à les toucher parce qu'elles étaient très, très réticentes, ces jeunes filles, à accepter d'écouter des divrei Torah, des paroles de Torah. Elles étaient dans la Torah et elles se sont éloignées parce que, justement, elles étaient convaincues que les 613 mitzvot, c'était 613 restrictions, 613 choses qu'on vient et qu'on t'empêche de faire ce que tu veux, qu'on t'empêche de vivre, qu'on t'empêche d'être heureuse. Et évidemment, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal, mon amie, à les convaincre que c'est faux ce regard qu'on porte sur la Torah et les mitzvot. Ce ne sont pas des choses qui viennent nous restreindre, ce sont des choses qui viennent nous permettre d'être heureux, nous permettre d'être épanouis, nous permettre de vivre la meilleure vie qu'on pourrait vivre. Et ça, c'est la première chose dont on doit être convaincu. La deuxième chose dont on doit être convaincu, c'est de notre capacité à faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on a l'impression, ok, c'est bon de faire tchouva, on a passé la première étape, mais c'est trop grand pour moi, je ne suis pas capable, c'est trop difficile pour moi. Et là, on a l'obligation de se renforcer dans ce qu'on appelle en hébreu le bitachon atzmi, la confiance en soi, la confiance en notre capacité à évoluer, en notre capacité à faire les bons choix. Et vous savez, cette notion de confiance en soi, elle est très très à la mode. On en parle beaucoup dans le coaching, dans la psychologie positive, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a un Rav qui a posé la question un jour. La Torah, elle aborde tous les thèmes. Tous les thèmes sont abordés dans la Torah. Et on voit nulle part le thème de la confiance en soi. Alors comment comprendre qu'un thème aussi important n'apparaît pas réellement dans la Torah? Et en fait, il expliquait, ce Rav, que... Je m'excuse, je ne me rappelais plus de son nom. Il expliquait qu'en vérité, la véritable confiance en soi... C'est la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est ma parcelle divine qui est à l'intérieur de moi. C'est Dieu qui est en moi. C'est ça qui me permet de surmonter les épreuves. C'est ça qui me permet d'évoluer. C'est ça qui me permet de faire des choses que je pense que je n'étais pas capable de faire. C'est parce que Dieu, il est avec moi. Il est en moi. Et donc, pour pouvoir faire tshuva, il faut être convaincu qu'on n'est pas seul. Il faut être convaincu, donc on l'a dit premièrement, qu'Hachem me propose quelque chose de faisable, et deuxièmement, qu'il me fait confiance, Hachem. Hachem, il me fait confiance. On nous dit « Karov elecha davar », lorsqu'on parle de la tchouva, on dit « la chose, elle est proche de toi ». Ça veut dire quoi, elle est proche? Il y a des mitzvot qui, réellement, elles nous paraissent très difficiles. Mais qu'est-ce qu'on vient nous dire? Hachem, il a confiance en toi. Le matin, lorsqu'on dit « modéani », on dit « Modéani lefanecha melech chai vekayam she'echezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha ». Rabba emunatecha, ça veut dire « elle est grande ta confiance ». Elle est grande ta confiance en moi. Je suis capable de faire ce que tu me demandes. Je suis capable de me surpasser. Pourquoi? Parce que tu es en moi. D'ailleurs, on dit que lorsque Yosef a fui la femme de Potiphar a cherché absolument à faire tomber Yosef et à le faire fauter. Et elle a utilisé comme argument qu'il ne valait rien, qu'il était déjà tellement loin du niveau de son père, de Yaakov, et de ses frères, les tribus qui étaient tous des tzadikim. Elle a essayé de le faire tomber donc dans le manque de confiance en lui. Et on dit que Yosef s'est ressaisi, et on dit qu'il a refusé de tomber donc dans ses bras. Et le mot qui est employé, c'est le mot « vayemaen », il refusa. Et les sages nous disent que ce mot de Vayemaen, il a les mêmes lettres que Vayahamen, il a eu confiance. Les lettres Aleph, Mem, Nun, qui sont en vérité la racine du mot Emouna, de la foi, de la confiance. Yosef, qu'est-ce qui lui a permis de réussir à fuir la femme de Potiphar? C'est qu'il a eu confiance en lui. Il a eu confiance que je suis juif, je suis le fils de Yaakov, je suis quelqu'un de grand, je suis capable, cette épreuve qu'Hachem me met devant moi, je suis capable de la surmonter. Et vous savez, c'est un travail au jour le jour. Pour réussir à reprendre confiance en nous, il faut qu'on apprenne à regarder toutes les belles choses, toutes les choses positives qu'on fait dans le courant de la journée. D'ailleurs, un exercice qui peut nous y aider, c'est ce qu'on appelle l'exercice des nekudot tovot, des points positifs, c'est-à-dire marquer, mamash, avec un cahier, une feuille, notez toutes les choses positives que vous faites dans le courant de la journée. Toutes les mitzvot que vous accomplissez dans le courant de la journée. Combien de choses positives vous faites? On a tendance à oublier, on a tendance à les dénigrer, on a tendance à ne pas se rendre compte que du matin au soir, on fait des belles choses, on fait des mitzvot. Même sans s'en rendre compte, lorsque une femme, elle nettoie sa maison, elle fait des mitzvot. Lorsqu'une femme, elle répond au téléphone à une amie et qu'elle l'écoute, elle fait une mitzvah. Lorsqu'une femme, elle fait à manger, lorsqu'une femme, elle va travailler, dans tout ce qu'elle fait, lorsqu'une femme, elle s'habille le matin et qu'elle s'habille toute la journée, elle fait une mitzvah. Elle ne s'en rend même pas compte. Elle s'est habillée le matin, ce n'est pas uniquement au moment où elle s'est habillée qu'elle a accompli une mitzvah. C'est dans tout le courant de la journée. Et regarder, prendre conscience de combien de mitzvot on fait, ça nous permet de reprendre confiance en nous et de se dire, je suis capable. Voilà, regarde, je suis capable. On nous dit que Eliyahu HaNavi, dans le Midrash de Tana de Eliyahu, il dit que Hachem, il attend notre tshuva comme une mère, ou comme une mère qui attend son enfant qui rentre, ou comme une femme qui attend son mari. Lorsque notre enfant, il est en retard, il n'est pas rentré, combien est-ce qu'on l'attend? Combien est-ce qu'on le veut? Lorsqu'une femme, elle attend son mari, par exemple, qui est parti voyager, travailler en dehors de la maison, loin, qui a voyagé, combien est-ce qu'elle attend avec impatience ? Et Yahou Hanavi, il dit, Hachem, il attend qu'on revienne vers lui avec autant d'impatience. Et Rabbi Chaim Faladji, il dit que lorsqu'il lit ce Midrash, lorsqu'il lit ces mots d'Eliyahu Hanavi, lorsqu'il imagine Hachem qui nous attend comme une maman ou comme une épouse, alors Rabbi Chaim Faladji, il dit, il pleure. Il dit, comment est-ce que Hachem, qui est infini, qui est le maître du monde, il peut nous attendre et nous, on peut le décevoir ? On peut ne pas répondre présent à cet appel ? On peut ne pas comprendre et réaliser qu'il est là pour nous et qu'il veut de nous et qu'il nous demande quelque chose qui est atteignable. Et d'ailleurs, dans la tfila du Shmona Esrei, alors on a une bracha, la bracha sur la tshuva, c'est la bracha, elle termine par les mots arotze bitshuva. Hachem, il veut notre tshuva. Rien que cette terminaison, elle veut tout dire. Hachem, il veut de nous. Hachem, il nous attend. Si déjà on réalise ça, on aura confiance, on aura envie de faire tshuva, on va courir pour être meilleur. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il est bon, parce qu'Hachem, il veut de nous et parce qu'on en est capable. Sur ce, je vous laisse pour une petite pause de musique. Je vous rappelle que si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. À tout de suite.
רציתי להגיע, רציתי לב לשפוך, קיוויתי שאעבור, חשבתי להניע, אורות מהרקיע, שמחת המשפיע, הכנתי הכל. אלך רחוק בשתי רגליים, ערים גבוה את הידיים, אצעק חזק עד השמיים, ואעצום את העיניים, עד שמילה אחת תצא באמת, באמת. עד שניגון אחד גיבור, לצאת למרות הגשם, להירתם עד עצם, נגד כיוון הזרם. רציתי את הכל, קיוויתי שאעבור, מוכן למסור את הנפש, אפילו בלי שום רגש. רציתי להמשיך ולעבור.
Rebonjour à toutes. pour notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Alors, on a commencé à analyser, avant la pause, quelques notions sur la tchouva, sur le mois d'Eloul, sur la tchouva, sur le béaba de la tchouva, que pour pouvoir faire tchouva, avant tout, nous devons reprendre confiance en Dieu, reprendre confiance en nous, ça marche ensemble. Et là, maintenant, j'aimerais analyser avec vous, on avance, et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait tchouva. Alors, le mois d'Eloul veut dire en araméen « enquêter, rechercher ». Parce que pour pouvoir faire tchouva, il faut réellement faire une sorte d'enquête, une sorte de recherche. Le Rav Volbe, il dit que le moussard, c'est rechercher la vérité, pas uniquement avec la tête, mais également avec le cœur. C'est-à-dire qu'il y a réellement un travail de questions à se poser. Des questions qui sont en vérité des questions clés qui vont nous aider à faire tchouva. Comme par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de faire tchouva ? Moi, je vous ai donné des exemples de ce qui nous empêche de faire tchouva, le manque d'émouna, mais en vérité, vous avez peut-être des réponses bien à vous. Qu'est-ce qui m'empêche de faire tchouva ? Quelle est la difficulté que je rencontre dans ce domaine ou dans cet autre domaine ? Qu'est-ce qui me rapproche de Dieu ? Parce qu'évidemment, faire tchouva, c'est revenir vers Dieu, c'est revenir vers nous-mêmes. Et pour pouvoir revenir vers Dieu, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui m'en éloigne, quelles sont les actions qui m'en éloignent, quelles sont les paroles qui m'en éloignent, quelles sont les pensées qui m'éloignent de la vérité, qui m'éloignent de moi-même, qu'est-ce qui m'éloigne de ma vérité intérieure et pourquoi. Et réellement essayer, et pour ça il faut se poser, il n'y a pas de secret, il faut se poser. Au mois d'Eloul, c'est le moment d'une grande introspection et il faut être convaincu que ce n'est pas un mois qui nous attend au tournant et qu'on doit regarder ce mois comme un cadeau qu'Hachem nous fait avant donc, le jour du jugement, avant Rosh Hashanah, et se poser les bonnes questions en sachant que, de nouveau, la tchouva, c'est revenir vers moi-même, c'est me retrouver, c'est retrouver ma vérité intérieure et c'est ça qui va me permettre de vivre la meilleure vie qui puisse être pour moi. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il raconte des contes. Et dans ces contes, il y a beaucoup de secrets, on ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'il veut dire dans ces contes. Il y a évidemment des gens qui commentent les contes, mais on peut essayer comme ça un petit peu de toucher à un de ces contes pour comprendre c'est quoi cette fameuse recherche et comment est-ce qu'on entreprend cette recherche. Alors, un de ces contes s'appelle « La princesse disparue ». Bon, on ne va pas avoir le temps de le lire en entier ou de l'analyser en entier, bien sûr. On va juste essayer de tirer de ce conte quelques idées qui vont nous mettre sur le chemin donc, de cette fameuse recherche. Alors, le conte commence par ces mots. « En chemin, j'ai raconté une histoire qui a provoqué chez tous ceux qui l'ont entendue une réflexion sur la tchouva. » En vérité, on raconte aux enfants des histoires pour qu'ils s'endorment. Rami Nachman, il dit que lui, il raconte des histoires pour nous réveiller, pas pour nous endormir, mais pour nous réveiller. Et donc, cette histoire de la princesse disparue, je vous la raconte comme ça très rapidement, évidemment sans les détails, c'est l'histoire donc d'une princesse qui a disparu, et son père, qui l'aimait beaucoup, est totalement désespéré de savoir qu'il n'a aucune idée où est-ce qu'elle se trouve. Et le vice-roi, il se présente devant le roi, et il demande qu'on lui donne un serviteur et un cheval, de l'argent, etc. Et il décide de partir la chercher. Et dans toute l'histoire, dès le départ, Rabbi Nachman nous dit « Voici comment il la chercha et finit par la trouver. » Dès le départ, on nous dit « Sache qu'il va la trouver. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, Rabbi Nachman ? On va y arriver. On va réussir à trouver le chemin qui va nous mener jusqu'à Dieu. On va réussir à se connecter à nous-mêmes. On va y arriver. Il faut chercher, on va chercher longtemps. L'histoire, elle raconte combien est-ce que le vice-roi a cherché. Combien de fois dans cette histoire apparaissent les mots « il la chercha, il la chercha ». Ça revient vraiment énormément. Pourquoi ? Pour nous dire qu'il y a un travail, mais au bout du compte, tu vas être récompensé. Et donc, le vice-roi, il part, et il commence à la chercher, il va d'ici, il va de là, et il ne se désespère pas. Donc, premièrement, on cherche. On sait qu'il y a un travail à faire, mais il est peut-être long ce travail, mais on ne se désespère pas. Deuxièmement, il demande. Il demande et il en veut. Et ça aussi, c'est un des secrets de la recherche. C'est un des secrets de la tchouva, c'est en vouloir, c'est vouloir la vérité, c'est vouloir trouver Hachem, c'est vouloir avancer, vouloir évoluer. D'ailleurs, à un moment donné dans l'histoire, on voit qu'il la trouve, la princesse, il va la reperdre. Mais lorsqu'il la voit, elle lui dit qu'il va falloir que pendant un an, il veuille absolument la retrouver. Il va falloir qu'il fasse un travail psychologique de développer en lui le désir de la trouver. Dans les mots, elle lui dit « Quand tu auras le temps et de la nostalgie, espère et souhaite me sortir d'ici. » Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là, la princesse ? Elle veut nous dire que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans cette recherche, dans ce chemin qui va nous ramener vers Hachem, il faut vouloir très très fort, il faut vouloir encore et encore. Et vous savez, je vais vous dévoiler quelque chose. On veut beaucoup de choses, même en spiritualité. Une femme, un homme, on veut avancer, on veut faire les choses bien, on veut s'améliorer, on veut avoir des meilleurs traits de caractère, on veut tout ça. Mais parfois, on croit que ce qu'Hachem il attend de nous, c'est que le résultat. Et on oublie combien le ratson, on appelle en hébreu, le désir, notre volonté, combien est-ce qu'ils sont chers aux yeux d'Hachem. On vit dans une société où c'est le résultat qui compte. Quelqu'un qui vient, qui passe son bac, qui pourra dire jusqu'à demain, mais je voulais vraiment réussir, mais je voulais... S'il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu. S'il n'a pas eu la note, il ne l'a pas eu. Ça, c'est dans le monde dans lequel on évolue, un monde superficiel, un monde faux. Mais dans le monde de la Torah, Hachem, il ne regarde pas le résultat. Hachem, il regarde combien est-ce que j'ai cherché et combien est-ce que j'ai voulu me rapprocher de lui, combien est-ce que j'ai voulu être une meilleure mère, combien est-ce que j'ai voulu être une meilleure épouse, combien est-ce que j'ai voulu faire les choses mieux, être une meilleure fille également. Et je vous propose un petit exercice. Et vous allez voir que cet exercice, il va vous renforcer même dans votre confiance en vous par rapport à la première partie de l'émission. Prenez une feuille et un stylo et notez tous vos désirs positifs, tout ce que vous voulez. Exemple, je veux pouvoir avoir plus de temps pour mes enfants. Je veux mieux respecter mon mari. Je veux pouvoir être disponible pour ma mère. Je veux que ma maison soit agréable et trouver le temps donc de la ranger, de la nettoyer comme il faut. Je veux qu'il y ait à la table de Shabbat une bonne ambiance, de la simcha, de la joie. Je veux pouvoir prier tous les jours. Etc, etc. Vous allez voir combien de choses positives vous voulez. Combien est-ce que, en vérité, toute votre personne, elle crie « Je veux me rapprocher de Dieu ». Et prenez conscience de ça et vous allez voir déjà que ça fait des miracles. Vous savez, on ne peut pas imaginer combien les désirs positifs, ils créent. On sait quoi ? On nous dit que le Maharsha dans la Gemara nous dit que nos retsonot, nos désirs positifs, créent des anges. Dans la Gemara, on nous dit « Abba l'éther, mesai in beyado » Celui qui vient se purifier, on l'aide. Et le Maharsha, là-bas dans la Gemara, il pose la question « Mais qui c'est qui l'aide ?» C'est écrit au pluriel, on l'aide comme si il y a plusieurs personnes qui viennent et qui l'aident. En vérité, le Maharsha y répond, donc c'est un commentateur de la Gemara, et qui dit, vous savez qui c'est qui l'aide ? À chaque fois qu'une personne elle a un désir, une volonté, une aspiration positive, elle crée un ange. Et tous ces anges, c'est eux qui vont venir et qui vont aider la personne à arriver, à trouver, on a parlé de recherche, à trouver, à réellement faire tchouva, à réellement avancer. Ce sont ces anges. Donc en vérité, nos désirs sont créateurs. Ils créent des anges qui vont nous aider à obtenir donc cette fameuse tchouva, ce fameux repentir, revenir vers nous-mêmes. On voit également dans le conte que notre vice-roi qui veut tellement, qui cherche tellement, à un moment, il s'endort, et ce n'était pas le moment de s'endormir, il devait récupérer la princesse, et lorsqu'il se réveille, il dit « Où suis-je donc ? Où suis-je ?» Et c'est une question qu'un juif, il doit se poser régulièrement. « Où est-ce que je suis ?» Dans les mots même de Rabbi Nachman, « Echan ani ba'olam ?» Où je suis dans ce monde ? Où est-ce que je me situe ? Et ça, c'est de nouveau la recherche. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis dans mon évolution ? Combien est-ce que j'ai avancé ? Combien est-ce que j'ai régressé ? Combien de choses bien j'ai fait ? Combien est-ce que de choses je regrette ? Ok, on sait très bien que la tchouva, c'est regretter également, regretter sincèrement ce qu'on a fait de mal. Ça fait partie de la tchouva. La tchouva, elle a plusieurs parties. Elle a le regret, elle a le vidouille, c'est-à-dire avouer avec sa bouche, avec ses paroles, parler à Hachem et lui avouer ce qu'on a fait de mal, regretter et promettre de ne plus recommencer. On va voir comment est-ce qu'on promet de ne plus recommencer, parce que bien sûr, vous allez me dire, il y a des choses que je sais pertinemment que je vais recommencer, des erreurs que je me connais, je sais que je ne suis pas encore capable de les surmonter, des difficultés que je rencontre. Donc, on va voir, on verra plus tard, ça veut dire quoi promettre de ne plus recommencer. Mais déjà, il faut savoir donc qu'on doit se poser la question, où suis-je pour réellement avoir en face de nous tous nos points faibles. Évidemment, nos points positifs aussi, parce que comme il lui dit, le Rav de Mir, il nous dit, une personne qui ne connaît que ses défauts et qui ne connaît pas ses qualités, elle ne saura pas quelles sont... Parce qu'en vérité, il explique que les qualités, ce sont les outils avec lesquels on va combattre nos défauts. Et si on ne connaît pas nos qualités, alors on ne sait pas quels sont les outils, quels sont les moyens qu'Hachem nous a donnés pour combattre ses difficultés, ses défauts. Donc, très important de faire une enquête, de regarder mes points positifs et mes points négatifs ensemble. Pour pouvoir évoluer, c'est la clé. Il continue donc, Rabbi Nachman, et il raconte comment ce fameux vice-roi, il partit seul à sa recherche, ayant laissé son serviteur. Il nous dit, continue, donc il avait un serviteur au début, à un moment il le laisse tomber, il comprend que c'est entre ses mains. Il comprend que ça suffit de se reposer sur les gens qui sont autour de moi. C'est entre mes mains. Adavar taloi ra elabi. La chose, elle dépend de moi. Ça ne dépend pas des gens qui m'entourent. Je vais arrêter de dire, ah oui, et si ma mère, elle avait été, et si mon mari, il était, et si mes enfants. Non, c'est moi. Maintenant, c'est à moi de bouger, c'est à moi d'évoluer. Et il continue à rechercher. Et puis, à un moment, il est presque désespéré. Je vous propose de lire le conte, il est intéressant à lire. Là, je vous lis quelques passages. À un moment, il est très désespéré parce qu'il rencontre des gens qui lui disent qu'il n'a aucune chance dans les mots. Donc, de cette personne qu'il rencontre, il rencontre un géant à qui il lui demande s'il a vu la princesse, etc. Et le géant qui lui dit « On t'a sûrement raconté des sottises, car de telles choses n'existent pas. » L'endroit où la princesse se situait, « De telles choses n'existent pas. » Le vice-roi pleura beaucoup et dit « Cela existe, c'est sûr, cela doit se trouver quelque part. » Là aussi, ce sont des mots clés. Le vice-roi, il pleure. Oui, il faut pleurer parfois. Il faut pleurer avec toutes ses larmes pour trouver la vérité. Mais il lui dit « Je suis convaincu que ça existe. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Il y a moyen de revenir vers Dieu. Il y a moyen de revenir vers soi. Il y a moyen d'être meilleur. Il y a moyen de changer. Il y a moyen de se transformer. » Et ça, c'est une des leçons donc, de ce conte. Et il termine le conte sur ces mots. En effet, il lui fallait toutes les ressources de son intelligence pour faire sortir la princesse. Et le Rav ne nous a pas raconté comment il la délivra. À la fin, il la délivra. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Il la délivra. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, d'après vous? Je vous propose une petite interruption, une petite pause, et je vous réponds à cette question juste après. Je vous attends.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site ToraBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions ToraBox délivrent sur mesure pour vous. ToraBox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets, Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site ToraBox et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour les filles pour la troisième partie de notre émission Judaïsme au féminin. Donc je vous ai laissé avant la pause en plein suspense, j'espère que vous êtes toujours là. Dans notre développement avant la pause, je vous ai un petit peu essayé de vous montrer dans le conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue, combien de leçons nous avons à apprendre pour faire tshuva. Et donc Rabbi Nachman termine ce conte en nous disant que le vice-roi finit par trouver la princesse, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il l'a trouvée. Et pourquoi ça ? Parce qu'en vérité, on a chacun notre parcours. En vérité, on a chacun notre moyen de revenir vers Hachem. On a chacun nos défauts, nos qualités, nos épreuves personnelles. On a notre vie. Et en vérité, il n'y a pas une réponse pour tout le monde. La réponse, c'est chercher. La réponse, c'est vouloir. La réponse, c'est ne pas se désespérer. Maintenant, après ça, c'est à chacun de travailler et de découvrir quel est son propre chemin pour y arriver. Donc, jusqu'à présent, on a étudié dans une première partie, on a analysé ensemble combien est-ce que c'est important de se renforcer en Emouna pour pouvoir faire tshuva, de se renforcer en Emouna en Hakadosh Baruch Hu, de se renforcer en Emouna en nous-mêmes. Ensuite, grâce au conte de Rabbi Nachman, on a expliqué combien c'était important donc, de rechercher, de vouloir, de ne pas se désespérer, de pleurer même et de savoir qu'on a une chance d'y arriver. Et là maintenant, je vais vous donner un conseil. En vérité, c'est un conseil qui est un conseil magique. C'est un conseil qui est abordable pour tout le monde. Et c'est un conseil qui est ramené par beaucoup de nos sages, comme le Rav Dessler par exemple ou le Rav Friedlander. Alors, avant de vous donner ce conseil, je vais vous raconter une parabole. C'est la parabole d'un roi qui demande à ses sujets de monter 1000 étages pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Ces étages, les marches sont hautes, c'est pas facile. Et il demande donc à ses sujets de les monter pour lui prouver donc leur fidélité. Les sujets commencent à monter. Un étage, deux étages, cinq étages, 10 étages. C'est très fatigant, c'est très éprouvant. Au bout de 10 étages, il y en a qui se désespèrent. Mais il y en a qui ont confiance et qui se disent « c'est faisable ». Si le roi nous a demandé, c'est que c'est faisable. Référence qu'on a dit tout à l'heure sur la confiance qu'on porte à Hachem. Et qui continue donc 11, 12, 15, 20 et de nouveau 25. Il y en a qui se désespèrent et qui lâchent et qui arrêtent et qui se disent non, c'est trop dur. Chaque étage il est difficile, on est arrivé à 20, on est au bord de l'évanouissement, on ne peut même pas envisager de continuer. Et il y a les plus courageux qui continuent et qui continuent. 25, 30, 40, 50 de nouveau. Il y en a qui baissent les bras et il y en a qui continuent. Et puis au bout du compte, il y en a un. Il y en a un qui se dit « c'est pas possible, j'ai confiance en mon roi, j'ai confiance en notre roi. S'il nous a demandé de monter 1000 étages, c'est que c'est faisable, c'est pas possible. » Et donc, il continue 100, 120, 130 et il s'effondre d'épuisement. Et là, il tombe par terre et il sait pas quoi faire. Il se dit « mais j'ai confiance, mais j'y arrive plus. » Et il ouvre les yeux et qu'est-ce qu'il voit devant lui ? Il voit un ascenseur qui le prend et qui le monte au 1000e étage. En vérité, qu'est-ce que le roi attendait ? Attendait que ses sujets lui fassent suffisamment confiance pour aller jusqu'au bout de leur force. Et après, c'est lui, c'est Dieu qui fait le reste du chemin. C'est lui qui vient, c'est Dieu qui vient vers nous. D'ailleurs, vous savez que les premières lettres du mois d'Eloul sont « Ani le dodi, ve dodi li ». Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. On vient vers Hachem et Hachem, il vient vers nous. Mais il faut y aller, il faut avancer, il faut vouloir venir vers Dieu. En vérité, dans cette parabole, on apprend quelque chose de très très grand. On apprend qu'il faut commencer doucement, doucement. Il faut commencer avec des petits efforts, avec des petits changements, de manière très progressive. D'ailleurs, cet exemple, on le voit même lorsque Hachem demanda à Moshe Rabbeinu de monter le Mishkan. Moshe, il s'est tourné vers Hachem en lui disant « Mais le Mishkan, il est trop lourd, les poutres sont trop lourdes. Je ne vais pas pouvoir le monter, ce Mishkan. » Et Hachem, il dit à Moshe, « Toi, tu fais ce que tu peux. » Et Béhémeth, on voit que Moshe, il essaye de monter le Mishkan, et puis le Mishkan se monte de lui-même. Pourquoi ? C'est le même principe. Hachem, il lui dit, « Toi, tu fais ce que tu peux. Compte sur moi, moi, je ferai le reste du chemin. Moi, je ferai le reste du travail. » Donc, ce conseil que je voulais vous donner, c'est de prendre sur nous des petites choses, des choses qui sont pas difficile, des choses qui sont pas énormes, des choses qu'on fait doucement, doucement. Vous savez, il y a un autre avantage à faire ça. Vous savez que lorsque on décide, par exemple, quelque chose de grand, un grand changement à opérer, tout de suite, le Yetzer Hara, il vient et il nous brise. T'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est trop grand pour toi. Et Bémet, on se désespère rapidement. Par contre, lorsqu'on prend sur nous des petites choses, alors, on ne réveille pas le Yetzer Hara. On ne le réveille pas. Il ne se rend même pas compte qu'on est en train d'opérer un changement. D'ailleurs, le Rav Volbe, il raconte qu'un jour, il a voyagé et qu'il s'est aperçu qu'à un moment donné, l'avion baissait d'altitude. Et donc, il a demandé à une hôtesse de l'air, on n'est pas encore arrivé, comment ça se fait que l'avion il baisse d'altitude comme ça? Et l'hôtesse lui a répondu, écoutez, on passe au-dessus d'un pays ennemi, d'un pays qu'on n'aimerait pas trop qu'ils s'aperçoivent qu'on passe. Et pour ne pas être repéré par les radars, on baisse d'altitude parce que là, les radars ne nous repèrent pas. Le Rav Volbe, tout de suite, il a fait le parallèle avec le Yetzer Hara. Lorsque tu fais un petit changement dans ta vie, le Yetzer Hara ne se réveille pas, il ne te repère pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tellement difficile. Et donc, lui, il se dit, bah, on ne va pas arriver bien loin avec ce petit changement. Et toi, quelque part, ce n'est pas vrai. Chez nous, ça fait oui de l'effet. Ça fait un effet de « je suis en mode tchouva », »,« je suis en mode changement », »,« je suis en mode Elul ». D'ailleurs, le Rav Dessler, il raconte qu'à l'époque, en Europe de l'Est, ils avaient l'habitude, pendant la période donc, de Elul et des fêtes de Tishrei, de manger du pain juif. Vous savez que, donc vous aussi, pour les femmes qui sont de France, etc., il y a la possibilité d'allumer le four et donc de manger du pain juif. À l'époque, c'était une khumra. C'était quelque chose de quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire dans le courant de l'année, à l'époque en Europe de l'Est. Mais pendant la période des Yamim Noraim, de Elul et de Tishrei, ils avaient l'habitude de prendre sur eux cette khumra, de se rajouter donc cette mitzvah, de ne manger que du pain qui a été cuit par un juif, dont le four a été allumé par un juif. Maintenant, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de tenir toute l'année à l'époque. Mais au moins, dans le mois d'Eloul, c'était important pour eux de le faire. Pourquoi ? De nouveau, pour sentir la progression, pour sentir qu'on fait quelque chose de mieux, pour sentir qu'on est en mode tchouva, on est en mode non anti-habitude. Ça veut dire quoi ce mode anti-habitude ? Beaucoup de nos difficultés sont le fruit de nos habitudes. On a l'habitude et donc on a beaucoup de mal à briser nos habitudes. Et le Rav Dessler il nous dit, si tu fais des choses qui sont différentes de ce que tu as l'habitude, même si tu ne vas pas tenir, même si ce n'est pas pour longtemps, ton inconscient va sentir que tu es sur un autre mode, que tu es dans un autre état d'esprit. Et ça va t'aider même dans les autres domaines. Ça va, les autres domaines même de ta vie, de ta Avodat Hashem, vont ressentir que ce n'est pas comme tous les jours aujourd'hui. Ce n'est pas comme tous les jours. Et il y a encore autre chose dans les petits changements, dans les petites améliorations qu'on peut faire dans cette période de Elul. Et pour ça, une autre parabole. C'est l'histoire de nouveau d'un roi. Il y a beaucoup d'histoires avec des rois. C'est l'histoire d'un roi qui décide, qui veut qu'on lui fabrique une coupe, mais une coupe, la plus belle coupe qu'on pourrait lui fabriquer. Et donc pour ça, il cherche l'orfèvre le plus extraordinaire, le plus professionnel qui puisse exister, et il le trouve. Et il lui demande, donc il lui dit, voilà, je veux que tu me fabriques la plus belle coupe qui puisse exister sur Terre. Et l'orfèvre, il est très honoré donc, de cette demande. Et il dit au roi, il n'y a pas de problème. Pour ça, il commence à réfléchir. Il faut que tu me donnes tant de kilos d'or, tant de kilos de pierres précieuses, etc. Un an, il va me falloir un an pour la fabriquer, etc. Et le roi lui donne tout ce qu'il demande. Le premier mois, l'orfèvre, il se met donc à travailler très sérieusement, à faire les plans, à dessiner, à compter combien il lui faudrait d'or pour la base, etc. Et il travaille très dur. Au bout d'un mois, l'orfèvre, il se dit « Bon, j'ai travaillé vraiment dur, je pense que j'ai le droit de prendre des vacances. » Mais évidemment, il utilise un petit peu l'argent qu'il a reçu du roi pour prendre des vacances. Et après 2 semaines de vacances, il sent que ça y est, il s'est reposé, c'est le moment de reprendre et de reprendre le travail de plus belle. Et donc, il travaille et il continue à la fabriquer, un peu par-ci, un peu par-là, une pierre précieuse, une perle, un ornement. Comme ça, il continue pendant un mois et de nouveau, il ressent le besoin de s'arrêter et de prendre des vacances. Je vais vous la faire courte. L'année passe et au fur et à mesure que l'année passe, l'orfèvre devient un peu fainéant. Il dilapide l'argent du roi, l'or et les pierres précieuses et il arrive qu'un mois avant le jour où il doit remettre la coupe, on tape à sa porte. Ce sont donc les soldats du roi qui lui rappellent qu'il lui reste un mois pour remettre la coupe. L'orfèvre rentre dans un état de stress total. Mais comment est-ce que je vais pouvoir lui rendre cette coupe? Je n'ai pas du tout terminé. Et il se met à travailler toute la journée pour un match, à travailler comme un fou pour pouvoir donc présenter au roi ce qu'il faut, sinon il sait que ce qui l'attend. Et donc il travaille du matin au soir, et il ne dort pas la nuit, et arrive le jour où il remet la coupe au roi. Il arrive au palais avec sa coupe, il la découvre devant le roi et devant tous les sujets, et tout le monde est ébahi par une coupe aussi merveilleuse, aussi extraordinaire, aussi belle. Mais il y a le secrétaire du roi, le responsable des finances, qui analyse la coupe et qui se rend compte qu'elle pèse moins que ce qu'on a donné à l'orfèvre. Et que c'est vrai qu'elle est belle, mais regardez ici, il y a un défaut. Et il commence donc à dire au roi, écoute, elle est magnifique cette coupe, mais ce n'est pas ce qu'on a commandé. On a commandé beaucoup mieux que ça. Et là, le roi, il regarde la coupe, elle est magnifique, il regarde l'orfèvre. Il regarde son intendant et il se dit, vous savez quoi? Cette coupe, elle est magnifique. C'est vrai que j'attendais plus que ça, mais je vais lui laisser encore une chance. Je vais lui donner encore tout ce qu'il faut et je vais lui laisser encore un an pour pouvoir me proposer la véritable coupe dont je rêvais, en utilisant tout ce que je lui ai donné comme or et comme pierres précieuses. On va lui laisser encore une chance. Eh bien, ça, c'est nous en Elul. Hachem, il nous a donné pendant toute l'année des cadeaux. De la santé, de la famille, de la parnassa, tout ce qu'on veut. Tout ça pourquoi? Pour qu'on le serve. Et on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pendant cette année. En Elul, lorsque je me rajoute des bonnes actions, lorsque je prends des petites choses sur moi, lorsque j'essaye d'être meilleure, je me prépare au jour du jugement et Hachem, il regardera ce dernier mois et il se dira, ok, peut-être que toute l'année, ce n'était pas le top. Mais combien d'efforts elle a fait dans ce dernier mois? Combien est-ce qu'elle n'est pas inconsciente du jour du jugement? Combien est-ce qu'elle veut faire ma volonté? Combien est-ce qu'elle veut se rapprocher de moi? Et vous savez, si la tchouva, ça nous paraît comme une mer à vider, chaque verre d'eau est compté. Lorsqu'on regarde tout ce qu'on a à travailler, on se dit c'est énorme. Mais lorsqu'on se rappelle que chaque petite chose, chaque verre d'eau qu'on a vidé de la mer, chaque petit plus, chaque petite mitzvah supplémentaire, chaque petite fois où on s'est tu lorsqu'on avait envie de répondre à quelqu'un, où on n'a pas dit de la chanara, où on s'est mieux couverte la tête, chaque petite chose, c'est énorme et ça compte dans la balance. Voilà, j'espère que cette émission vous a apporté, c'était le but. On a essayé un petit peu donc de comprendre un peu plus c'est quoi la tchouva, comment est-ce qu'on fait tchouva, qu'est-ce qui nous empêche de faire tchouva. On a donné ce dernier conseil de prendre sur nous des petites choses, des choses qui sont pas difficiles mais qui sont tellement importantes et qui peuvent tellement faire pencher la balance. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine émission. Je vous rappelle que si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée et je vous embrasse.
הכל את כל מה שביקשתי לצעוק תמיד בקול אומר לו רק תודה על כל מה שעשה שבכל חיי אל תפעם אותי נסר